全都能死掉的。
Est toujours enclavé sur le plan économique. Jusqu'à ce jour, on n'observe pas encore un impact notable de la réunification du pays. Dans le district du Haut-Touélé en province orientale, on prend par exemple les cas d'une société qui s'appelle Saplast. Cette société fabrique du savon à Issiro. C'est une société qui n'a pas été affectée par les pillages de la guerre. Mais croupit sous d'énormes difficultés de fonctionnement parce que il y a un problème d'écoulement des produits finis. Ce serait en grande partie à cause de l'absence des routes. Alors les routes ne sont pas praticables et du coup les productions sont bloquées à Issiro même où ça coûte énormément cher. Nous avons ici tout de suite un studio, un responsable au niveau de la FAO avec qui on va aborder cette question des routes de certes agricoles. Si vous pouvez vous rapprocher du micro, le temps que la liaison téléphonique soit rétablie entre nous. Vous m'entendez? Bonjour, bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors, si vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs, ils ont besoin de savoir ce que vous faites exactement à l'FAO. Je sais que vous êtes consultant national et que vous vous appelez Fabien Bondonga, Justin Fabien Bondonga. Alors, lorsque on aborde cette question de route et de cette agricole impraticable, ça vous interpelle, vous, de l'FAO?
Oui, effectivement. Merci beaucoup pour la question. Le problème des routes de défaite agricole pour la FAO est un épineux problème pour le désenclavement, pour l'évacuation des produits agricoles. Parce que notre pays, comme vous le savez, est à vocation agricole.
Mmh. Alors, parce que la FAO appuie très souvent les problèmes, si vous voulez, les programmes agricoles, les agriculteurs, les producteurs paysans, est-ce que la FAO envisage cet aspect, notamment d'évacuation des produits, passez-moi la technologie.
Oui, effectivement, depuis l'année passée, nous avons eu un projet qui a été sous financement de l'Italie, où nous avons réhabilité une partie de l'ouest du pays, c'est-à-dire au Bas-Congo, à Kinshasa et dans le Bandundu. Nous avons pu réhabiliter certains ouvrages d'art qui ont permis ce qui est fonctionnalité dans un réseau de routes de desserte agricoles. Et cette année, nous sommes déjà dans l'élaboration, disons, dans l'étude de faisabilité de notre projet qui va s'occuper des deux Kasaï et de la province de l'Équateur pour le même but, c'est-à-dire désenclaver les zones à haute production agricole et faciliter aussi l'écoulement de ce qui est produit.
Comment procédez-vous? Est-ce que vous avez une cartographie spécifique que vous suivez? Parlons notamment du cas du district du Haut-Touélé, où on déplore tout ça dans les villages. Vous le savez, puisque vous êtes dans la FAO, il y a des produits de récolte qui pourrissent dans les champs parce qu'on ne peut pas les évacuer.
Oui, nous recevons d'abord les requêtes de la population qui sont centralisées au niveau de nos antennes à l'intérieur du pays. Et on demande à nos consultants thématiques de descendre, de faire des évaluations pour voir quels sont les goulots d'étranglement. Parce que la FAO ne fait pas comme du NOPS ou la CTB et autres programmes,
agences.
Et nous ne faisons pas la réhabilitation systématique, mais nous cherchons à voir le goulot d'étranglement qui sont souvent des ponts défectueux, des ponts endommagés, des buses, des dalots qui ne sont pas en bon état pour que nous puissions désenclaver ces. Il faut enlever le goulot d'étranglement pour faciliter la circulation. C'est ça un peu le principal objectif de la FAO concernant les routes.
Oui.
Mais nous travaillons en synergie avec d'autres agences, telles que le PAM, pour les travaux sur les pistes, pour la réhabilitation des pistes. C'est ce que nous avons fait au Bas-Congo et dans l'Interland de Kinshasa.
Mais on sait qu'il y a notamment le programme Travail contre nourriture que appuie le PAM avec vous au niveau de la FAO. Mais vous avez dit quelque chose de très important tout à l'heure, que les populations peuvent soumettre, si vous voulez, leurs desiderata à vos répondants thématiques à travers la RDC. Pour parler de la province orientale, par exemple, est-ce qu'il y a un bureau de représentation à Kisangani? Et qui est-ce que les populations ou les ONG peuvent contacter pour soumettre leurs desiderata ou leurs problèmes en ce qui concerne les routes et les dessertes agricoles et certaines pistes?
Il y a un sous-bureau qui est à Kisangani, et tout comme à Bukavu, à Goma. Et à Goma, c'est même une sous-coordination des urgences qui est basée là-bas et qui s'occupe de recueillir tous les éléments. Pour preuve, il y a même mon collègue de l'Est, M. Désiré Mangassa, qui est consultant national pour tout ce qui est de la partie Est et qui récolte ces éléments-là, qui facilite à ce qu'il puisse élaborer un document de projet que nous soumettons au bailleur. Et dès que le financement est là, nous attaquons pour essayer de réaliser le projet.
Donc on comprend que la démarche était là parce qu'on s'est toujours posé un certain nombre de questions parmi lesquelles, mais bon, oui, la FAO donne des semences, c'est bien, la FAO donne des boutures, c'est bien, mais lorsqu'on a produit, on a du mal à les évacuer parce qu'il n'y a pas de route. On est heureux d'apprendre qu'il y a ce volet que vous soutenez aussi. Est-ce que vous financez où vous intervenez directement à la demande d'un groupe des populations, comment ça se passe? La réponse, lorsque la FAO, vos bureaux, ont recueilli toutes ces informations, comment ça se passe après?
Bon, lorsque la FAO a recueilli toutes ces informations, au niveau de nos antennes, ça, on transmet ça au niveau de la coordination. Et la coordination essaie d'évaluer la faisabilité de ce projet-là, parce qu'il y a aussi le budget. Il faudra que les travaux qui seront faits puissent entrer dans le budget. Et nous essayons de voir la prioritisation, quelles sont les routes qui sont prioritaires, quelle est la quantité de produits qu'on doit évacuer, quelles sont les capacités locales pour l'exécution des travaux. Parce que ce problème de capacité locale aussi intervient beaucoup. Parce que sur place, on ne doit pas déplacer les acteurs, c'est-à-dire les structures qui doivent travailler. Nous cherchons les petites et moyennes entreprises et les ONGD qui sont localement établies pour faire les travaux dans chaque coin.
Très bien, nous allons nous rendre dans quelques instants en province orientale pour rentrer en profondeur dans une réalité de Isiro.
À Kisangani sur 94,8.
Ok, très bien. Nous allons rentrer en contact avec notre consoeur Dorcas Kankou qui est à Kisangani. Elle vient de rentrer de Isiro. Dorcas Kankou, bonjour.
Bonjour Walter.
On constate que à Isiro, notamment, cette société Saplast qui produit des savons ne sait pas évacuer ces produits parce que les routes sont mauvaises. Alors, vous étiez à Issirou, vous l'avez visitée, est-ce qu'elle est encore opérationnelle?
Tout à fait, Walter. D'ailleurs, une des activités principales, comme vous venez de le dire, de la société Saplast est la fabrication du savon, le savon cristal. Selon Massimano Djuma, le comptable de cette société, à l'époque, il produisait jusqu'à 50 000 sachets de savon par jour. Mais aujourd'hui, ils n'en produisent que 3 000 sachets et ils ont besoin de 2 à 3 mois pour écrouler la marchandise.
Alors, que les auditeurs soient indulgents parce que nous avons un temps de seconde relativement long par rapport à l'accoutumée à cause de la liaison téléphonique qui est assez loin. Dorcas Kankou, ce fonctionnement au ralenti pose de sérieux problèmes aux agents, je suppose.
Absolument, Walter. Les agents ont du mal à nouer le deux bouts du mois, comme le témoigne cette dame, ingénieure de la Saplast.
Nous traversons des difficultés assez sérieuses. Ces difficultés sont surtout dues au fait que la santé économique ne nous permet pas de réunir toutes les conditions pour pouvoir effectuer toutes les activités que nous pouvons dans la société. Dans le temps, on pouvait décortiquer le café, utiliser le palu, on pouvait produire le savon, on pouvait raffiner l'huile de palme, mais aujourd'hui, en tout cas, nous sommes juste au niveau d'une seule activité qui est la fabrication du savon. Ça nous rend vraiment la vie difficile parce que dans le temps, le travailleur pouvait être en mesure, avec son petit revenu, de nouer les deux bouts du mois, mais actuellement, il ne peut vraiment pas. Alors, avec ça, on essaie de s'organiser de telle manière que le travailleur vient actuellement, par exemple, aujourd'hui, je viens du champ, tout droit du champ, pour nous permettre de ne pas rester à la maison à tout moment. Nous venons rester pour quelques jours, mais le reste du temps, nous sommes obligés d'aller au champ pour vaquer à des activités.
Une femme ingénieure de la Saplast. Petit commentaire qui avait dit que des femmes ne pouvaient pas être ingénieures. En eurofemme, coup de chapeau. Mais Dorcas, je reviens à vous, je pose la question. Comment expliquer cette diminution des productions?
Cette situation serait liée principalement au manque de voies d'évacuation de produits. Autrement dit, Walter, c'est la dégradation de routes qui décourage les commerçants à entreprendre de voyages sur Isiro pour s'approvisionner comme à l'époque. Massimano Djuma de la Saplast explique.
Par exemple, Isiro... Kisangani, il n'y a plus de route. Isiro Aruara, il n'y a plus de route. Isiro Mungwere, il n'y a plus de route. Isiro Bafasete, pas de route. Isiro Bouta, non plus. Alors, ça nous pose beaucoup de problèmes pour l'écoulement du trouble. Sauf le transport aérien, et qui coûte très cher. Dans l'ancien temps, la société produisait chaque jour, en tout cas, plus de 50 000 sachets. Mais pour le moment, la société travaille à ralenti suite à la dégradation des routes. Dans l'ancien temps, il y avait des clients qui venaient de tous les coins du pays. De Kisangani, de Bouta, de Butembo, même de Goma, même de Bukavu. Même les clients qui venaient de l'extérieur. Par exemple, les gens qui venaient du Soudan, de RCA. Pour le moment, suite à la dégradation des routes, ils ne viennent plus.
Voilà, on évoque la belle époque avec une certaine nostalgie. Dorcas Kankou vient de l'entendre, les commerçants venaient de part et d'autre du pays et même des villes assez loin de la République démocratique du Congo à l'intérieur. À l'époque, on suppose que ce devrait être une activité commerciale très florissante.
Oui. Et c'est même ce que nous a déclaré un des anciens commerçants, transporteurs et revendeurs du savon cristal que nous avons rencontré. L'intéressé exploitait l'axe ici au Bounia.
Par exemple, je fais aujourd'hui à l'année 89, je venais ici pour acheter par exemple 5 000 cartons. Je devais transporter à 3 ou 4 véhicules pour ramener ça à Bounia.
Combien de jours sur la route?
Deux jours suffisent. Et puis de Bounia, on devait évacuer ça à Kasenyi, à Chomia, à Mungwalo, à Fataki, à Mahagi, jusqu'à Gonyir. Alors c'était ça notre point de vente. Une fois le camion déposé à Bounia, le camion était obligé de rentrer et notre camion prenait ça. Alors au moins chaque semaine, le camion devrait faire va-et-vient. Mais actuellement, il n'y a plus de route. Non, à ce moment-là, tellement qu'il y avait des commandes, quand vous venez ici, vous devez leur informer que non, à telle date, j'ai déjà des perses. Quand vous arrivez, vous devez attendre. On vous dit patienter deux jours, trois jours.
Pourquoi?
Parce que l'offre était inférieure à la demande. Parce qu'on se retrouvait ici avec des Soudanais, avec des gens qui vont à Bouta, il y a des gens qui allaient à Dingila, à Butembo, à Kisangani, alors on se trouvait ici. Ici, c'était le lieu de notre rencontre.
Isiro, c'était donc un carrefour à l'époque, mais aujourd'hui ça ne l'est pas, à cause notamment de l'absence des routes en bon état. Dorcas Kankou, je vais vous proposer qu'on ouvre une petite parenthèse par rapport au signe de la réunification économique du pays. Quels sont les signes que vous pouvez observer à Kisangani?
À Kisangani, c'est par exemple la réouverture du trafic Kinshasa-Kisangani sur le fleuve Congo. Conséquence, inondation de marchandises en provenance de Kinshasa à des prix favorables. Le prix du sac de ciment qui se vendait à 40 dollars voire 50 dollars pendant la guerre revient à 15-16 dollars aujourd'hui. Et puis dans le marché, le poisson Piodi, on refait surface, Walter.
Tiens, le poisson Piodi alors que vous avez le fleuve juste à côté. Bon, c'était une autre parenthèse, mais revenons sur Isiro. Qu'est-ce que la fédération...
La ville de Kinshasa.
Oui, d'accord. Que dit la fédération des entreprises du Congo, du district du Haut-Touélé, par rapport notamment à ce manque de routes qui handicapent terriblement leurs activités?
La FEC est claire. Elle dit carrément que le délabrement de routes est un manque à gagner pour l'économie de la province et même du pays. Célestin Lekabissi, président de la FEC Haut-Touélé.
l'économie est agonisante, puisque quand bien même on a parlé de la fin de la guerre, la réunification du pays, mais sur le plan économique, le pays n'est pas encore réunifié, puisque nous laisser dans cette situation d'enclavement, il nous sera difficile, et même l'État ne peut pas tirer profit. Aujourd'hui, par exemple, nous voulons vous dire que le Haut-Tu est le produit du Padi, et même le bassin de l'Ouélé, c'est vraiment une grande production du Padi, du riz. Si nous produisons du riz à Isiros et que nous avions des routes, le riz, si nous allons le revendre à Ituri, nous allons l'exporter ailleurs. Mais quand vous allez à Bounia, le riz qu'ils mangent là-bas vient de Thaïlande, de Chine, de Pakistan, des milliers de kilomètres par rapport à Isiros. Tout simplement puisque nous n'avons pas de routes. Les gens produisent juste un peu. C'est une production de substances aussi. Par exemple, le savon qu'on produit en Ouganda, Chapagnotte, les huiles qu'ils utilisent, ils amènent ça des Malaisies, alors que nous avons des huiles. Mais nous ne savons pas amener nos huiles ici à Arou pour les exporter aussi. Tout ça réside au niveau de routes. Il n'y a pas de routes.
Célestin Leka-Bissia, président de la Fédération des entreprises du Congo, section du Haut-Touélé, Dorcas Kankou, c'est elle qui l'avait interrogé, c'est elle qui nous a apporté tous ces éléments de formation. Il y a urgence, il faut réhabiliter très rapidement ces routes qui relient Isiro. On a entendu la description, c'était une espèce d'étoile d'ailleurs dans tous les sens. Isiro était un carrefour commercial. Aujourd'hui, on l'évoque au passé avec une certaine nostalgie. Dorcas Kankou, merci beaucoup pour nous avoir fourni toutes ces informations. Au plaisir de vous retrouver très prochainement pour nous en donner davantage des profondeurs du Congo.
Merci, au revoir.
Au revoir, Dorcas.
Radio Okapi, Okapi, Aïsiro,
sur 90,1.
Okapi.
Je retrouve le consultant national de la FAO, Justin Fabien Bondonga. Alors, vous avez suivi avec nous ce que vous venez d'entendre. Hein. Quel commentaire faites-vous?
C'est déplorable, comme nous le savons tous. Mais il y a un problème aussi sur la classification des routes en RDC. Lorsque nous parlons des routes, ce n'est pas, disons, toutes les routes que la FAO fait. La FAO s'occupe plus des routes des dessertes agricoles. Or, il y a aussi le réseau primaire qui sont des routes nationales et provinciales. Et il y a aussi une structure que l'État a mis pour faire ça. Et cette structure-là aussi a des difficultés économiques qui fait qu'il ne fait pas totalement son travail et qui handicape les travaux même des routes des dessertes agricoles. Parce que cette structure devrait s'occuper de l'ossature, de la squelette, du squelette qui est l'ossature des routes. Mm-hmm. Parce que les routes qui quittent, par exemple, il y a des nationales, je prends exemple ici à Kinshasa, la nationale numéro 1 qui quitte Bas-Congo, Kinshasa jusqu'à Lubumbashi en passant par Bandundu, c'est une route nationale. Là, si on vous demande à la FAO ne va pas intervenir. Mm-hmm. Mais il y a une structure qui est l'office de route qui est chargée de ça et que l'État aussi doit mettre ses moyens à l'office de route pour que cette structure puisse faire aussi son travail dans l'ossature. Mmh. Parce que les routes de cette agricole débouchent sur les routes nationales et régionales. Tout Or, si les routes régionales, c'est le cas que nous avons connu, nous venons de faire une étude de faisabilité pour les zones, des territoires, par exemple, de Dibelengue. Mmh. Mais vous trouverez que la route nationale numéro 7, qui part du lac Mukamba, Dibelengue, Benachiadi, qui va vers le Sankuru, n'est pas en bon état. Donc, il est difficile pour la FAO, même s'il a besoin de faire certaines routes de dessert agricole, de le faire parce que déjà, il doit faire 180 ou 200 km de route nationale qui n'est pas à sa charge et qui ne doit pas réhabiliter aussi.
Si je vous comprends bien, c'est ma dernière question. Si chaque, si vous voulez, structure coordinatrice de la réhabilitation des routes s'occuper de son tronçon, ça faciliterait aux autres structures intérieures de vite faire les routes secondaires.
Oui, effectivement, parce qu'il y a une fonctionnalité dans le réseau. Mmh. Il faudra que le réseau primaire soit très bien, disons, réhabilité pour que le réseau secondaire puisse se brancher là-dessus et qu'il y ait fonctionnement. Sinon, vous allez faire sortir des histoires, mais arriver sur la grande route, vous trouvez le même problème que vous avez fui dans le réseau secondaire. Mmh. Donc, il est intéressant que malgré les bailleurs de fonds, malgré que du côté aussi étatique, on puisse faire un petit effort pour aussi octroyer à l'office de route, à la voirie, au l'OVD qui s'occupe des grandes villes, parce que dans les villes, on voit aussi les routes dans l'état qui se trouve. Donc, ce n'est pas toujours fameux, que ce soit dans les villes ou dans les routes nationales.
Merci beaucoup, Monsieur Bondonga. Je vous remercie d'être venu commenter cet aspect des choses, cet aspect de l'autre intervention de la FAO, parce qu'on a toujours cru que la FAO, ce sont seulement les semences. Aujourd'hui, on est en train de comprendre et d'apprendre que la FAO, c'est aussi les routes des dessertes agricoles. Merci beaucoup d'être venu nous en parler.
C'est à moi à vous remercier, monsieur.
Au revoir.
Okapi Action, des conseils pratiques, des solutions à vos préoccupations. Okapi Action, du lundi au vendredi de 9h à 12h à Kinshasa, avec Walter Moulon.